Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale
infernale.
Et oui, la matinale infernale, c'est l'émission de Graphite qui dynamite votre matinée. Nous sommes en partenariat avec les bibliothèques de Compiègne et je vous rappelle le principe, former des amateurs de divers horizons à la création de chroniques pour la radio et enregistrer leur production sous forme d'émission, notre matinale infernale. Moi c'est Aurore, j'anime ou participe déjà à d'autres émissions sur Graphite comme La Voix de la Plume ou le Rendez-vous Culture des bibliothèques. Ce matin, avec moi, mes chroniqueurs sont des participants d'ateliers organisés à la bibliothèque Saint-Corneille tous les mercredis soirs, sauf pendant les vacances scolaires, hein Martin?
Oui.
Faut pas exagérer, les vacances, c'est sacré. Hein. Ce matin, avec moi, dans le studio, nous avons Martin.
Bonjour.
Jules, Marion, qui est en guest aujourd'hui, qui nous regarde et nous fait coucou. Nous avons aussi Raoul, hashtag Batcave. Nous avons Miss Kilt.
Hello.
Et Psychopathe.
Toujours présent.
Eh bien, je propose à que nos chroniqueurs s'enchaînent dans un ordre un peu singulier aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais profiter du fait que Fatih, la féministe, ne soit pas là pour commencer avec un gentleman ce matin. Et donc, pour bien commencer votre week-end, même si son nom peut prêter à confusion, je laisse la place à notre ami Psychopathe.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est avec grand plaisir que Psychopathe va vous parler des chakras. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je vous parlerai des chakras, comme je vous ai dit précédemment. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons nous plonger et explorer un peu le monde des chakras, ce centre énergétique subtil découvert en Inde par de grands maîtres spirituels. D'après cette philosophie orientale, ces centres énergétiques existent bel et bien et peuvent avoir un impact positif ou négatif sur notre santé et notre personnalité. Donc, pourquoi ne pas être ouvert et curieux sur cette pratique qui nous veut du bien et que je m'en vais vous expliquer durant quelques minutes. Selon cette tradition hindoue, il y a 7 principaux chakras, partant du bas de la colonne vertébrale et terminant jusqu'au sommet de la tête. Le premier chakra a pour nom le chakra racine de couleur rouge. Il se situe au bas de la colonne vertébrale et régit les membres inférieurs. S'il est déséquilibré, il peut créer des problèmes de dos, des douleurs aux pieds et peut créer le manque de confiance en soi, la peur d'affronter les défis de la vie. Donc, pour rééquilibrer ce chakra, selon l'ayurvédique, il faut se le visualiser tout en bas de la colonne vertébrale et prononcer un son, le son LAM. Faire aussi quelques exercices de yoga et de méditation pour compléter le tout. Le deuxième chakra s'appelle le chakra sacré, de couleur orange. Il est sous le nombril et s'occupe des organes génitaux, entre autres, et régit la capacité à donner du plaisir et à en recevoir dans la vie, et ce, dans tous les domaines de notre vie. Donc, si nous avons des problèmes cités plus haut pour rééquilibrer le chakra sacré, il suffit pareillement de faire quelques exercices de yoga, de méditation et de visualiser ce centre énergétique juste au-dessous du nombril en prononçant le son VAM. Le troisième chakra, dit chakra du plexus solaire, couleur jaune, est à la base de la cage thoraxique et est en lien avec les organes digestifs et avec le pancréas. Ce centre énergétique bien équilibré nous donne de la confiance en soi et la force de résoudre les problèmes. Pour que cela soit effectivement le cas, visualisez cette boule d'énergie au niveau du thorax, de couleur jaune, tout en prononçant le son RAM. Elle vous donnera du dynamisme. Associez à cela de la méditation et aussi quelques exercices de yoga. Le quatrième chakra s'appelle le chakra du cœur. couleur verte, situé au creux de notre poitrine, il gouverne l'appareil respiratoire, la circulation sanguine, le thymus et j'en passe. Ce chakra activé convenablement nous permet d'avoir plus de compassion, plus d'amour, de gentillesse pour soi et pour les autres. Pour l'activer, il suffit de faire quelques exercices de yoga, de la méditation, voilà, et de le visualiser au niveau de la poitrine tout en prononçant le son yam. Le cinquième chakra, dit chakra de la gorge.
Ah, je l'avais celui-là, je voulais le dire, je l'avais.
Ben, parfait, parfait. Et qu'est-ce qu'il fait le chakra de la gorge, Aurore ?
C'est plus pour la communication.
Bravo, exactement. Le chakra de la gorge régule à la fois la glande thyroïde, le foie, les muscles et les os. Il est de couleur bleue. Parfait. Et il joue sur notre façon de communiquer par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre extérieur. Comment faire pour réharmoniser ce chakra pour une bonne communication ?
Allez, méditation, yoga ?
Exactement, très bien, bon élève. Eh bien, toujours un peu d'exercice de yoga, comme tu disais, Aurore, de la méditation, de la visualisation de cette boule d'énergie au niveau de la gorge et avec la prononciation de son son âme. L'avant-dernier chakra, le chakra du troisième œil, exactement.
Parce que en fait, les auditeurs ils ne voient pas, mais depuis tout à l'heure, on se regarde tous et on montre les gestes de où sont les chakras. Donc on a l'air un peu tous ridicules dans le studio, mais
personne nous.
Mais on suit ta chronique à fond et du coup, on est là à montrer où sont les endroits. Donc oui.
Eh bien, sachez que mes chers auditeurs et auditrices, nous avons des chroniqueuses, des chroniqueurs très cultivés. Hein. Donc bravo, bravo.
Et intéressé. Sachez que je suis le seul à ne pas le
faire. Mais ça va pas tarder. Voilà, le sixième chakra, l'avant-dernier, donc appelé effectivement le troisième œil ou chakra du troisième œil, se trouve entre les sourcils, régit l'intelligence, l'intuition, l'imagination, la mémoire, la sagesse suprême et la clairvoyance. Pour l'activer, faites un peu d'exercice, voilà, pareil, quelques exercices de yoga et de le visualiser entre les sourcils tout en prononçant le son.
Et la couleur ?
Et c'est de couleur bleu foncé. Voilà, bleu foncé, tout à fait.
Indigo.
Oui, exactement. Waouh, elle est trop forte. Et pour terminer, elle est trop forte, franchement. Et pour terminer, le septième chakra. À ton avis, Aurore, pour terminer, comment il s'appelle ?
Le chakra couronne.
Oh. Ben oui, le chakra couronne, il est de couleur violette. Donc il est lié à notre capacité d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs et à développer notre sagesse suprême, notre connexion à des dimensions supérieures. En faisant des exercices de méditation tels que le yoga, le fait de le visualiser en prononçant le son OM, eh bien on le réactive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce voyage vous a plu. À vos chakras maintenant. C'est parti.
Bien, merci, psychopathe. D'ailleurs, un jour, j'ai fait du Reiki. Quelqu'un a fait du Reiki sur moi. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire une sorte d'imposition des mains au-dessus des différents chakras et de voir ce qui se passe. Mais l'idée de libérer l'énergie, de débloquer du coup, la circulation énergétique au niveau des chakras. Et c'était au début que j'étais en train d'écrire ma saga fantasy L'Oneida. Et donc la personne, elle met ses mains au niveau du chakra du troisième œil. Écoute, comme j'étais en plein dans mon écriture en ce moment-là, bah naturellement, quand j'avais rien à faire, là j'étais allongée, donc voilà, j'étais tranquille, tu vois, un peu zen, en attendant que le soin énergétique se fasse. Je pensais à mon bouquin. Quand elle a mis ses mains à cet endroit-là, c'est devenu un film dans ma tête. J'ai tout vu. Je voyageais dans mes rues, je voyais mes personnages. Non, mais c'était dingue. Franchement, j'ai jamais vécu une expérience comme ça. Et puis ben en Reiki après elle reste quelques minutes et puis elle change de chakra. Quand elle a enlevé ses mains, je voyais plus rien.
Partie.
La télé était éteinte,
c'est
quoi.
Incroyable.
J'étais dégoûtée.
Oh, c'est incroyable comme histoire.
Dommage, tu n'as pas enregistré.
Mais encore et toujours des exercices de méditation.
Oui, peut-être qu'effectivement, avec des exercices de méditation. Mais en fait, c'était tellement visuel que même aujourd'hui, en vous parlant, je revois ce que je voyais à ce moment-là. C'est vraiment ancré dans ma mémoire à fond, parce que c'était vraiment ce que j'étais en train de faire à ce moment-là et tout ça. Mais c'était fou. Elle était sur le chakra couronne, il se passait rien. Spéciale, elle arrivait sur le chakra du troisième œil.
Et comme par hasard,
la télé s'est allumée dans ma tête, quoi. C'était dingue. Et quand elle est partie, plus rien. Donc voilà, petit bisou.
Petite précision, la prochaine fois tu me donnes ces coordonnées, comme quoi j'irai la voir, voilà, pour voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté.
Ouais. Ah bah écoute, oui, ça m'a pas fait ça à chaque fois qu'elle m'a fait un soin énergétique, mais alors ce moment-là, je pense que c'est un des moments les plus impressionnants que j'ai vécu dans les domaines de développement personnel et de ce qui peut se passer sur les...
Extraordinaire.
Voilà. Donc voilà, c'était ma petite anecdote personnelle du coup.
Merci, merci.
Je propose que notre étoile filante nous donne beaucoup d'énergie et nous emmène dans un endroit peut-être bien connu aujourd'hui.
Très, très connu.
Très, très connu.
Salut tout le monde, comment allez-vous ?
Salut.
Salut.
Salut. Ça va, ça va.
Ce matin, la planète constituée de terre, la Terre, littéralement. Pour commencer, sache qu'elle s'appelle comme ça, mais l'eau est présente à 71% sur les 510 millions de kilomètres carrés. Mais elle a un surnom par rapport à ça, c'est la planète bleue. Un surnom que tout le monde connaît.
Bien sûr.
Grâce à
bien
l'eau, sûr. Du coup, t'as dit.
Oui. Elle est rocheuse ou tellurique, comme vous voulez. Elle est, pour l'instant, la seule planète où les êtres humains peuvent vivre. Première question de la matinée. Qu'est-ce qui permet à l'homme de vivre sur Terre ?
L'eau.
C'est l'eau.
L'oxygène.
L'eau, l'oxygène.
L'oxygène, oui.
L'alimentation, oui. C'est pas ça ? C'est pas ça ?
Vous vous trompez souvent, dis donc.
Ah bon ? Merci.
Carrément souvent. Hein. Toujours plus.
Chaque question qu'on pose...
Alors, tout à l'heure, Patrick trouvait qu'on était très cultivés. Martin, ouais. Pas du tout.
Il sort d'un coup, là.
Ok, vas-y, dis-nous tout, alors.
En réalité, c'est le carbone... L'oxygène, comme dit par Aurore.
Encore une culture, encore cultivée. Voilà, surtout.
C'est la seule qui ait dit l'oxygène. Et l'hydrogène.
Eh oui, l'hydrogène.
Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr.
Non, pas. Et l'hydrogène, parce que c'est pas le dernier, il y a aussi l'azote.
Ah. Donc, ouais, beaucoup, c'est l'environnement, enfin, l'atmosphère.
L'atmosphère.
Qui permettent à l'homme de vivre et aussi qui la crée. Remontons maintenant, il y a 3,8 milliards d'années, même avant les dinosaures. Les premières vies étaient exclusivement aquatiques, mais on ne sait pas à ce jour à quoi elles ressemblaient. Passons à un autre thème. Par rapport au Soleil, dont on a parlé la dernière fois, à votre avis, en combien de temps ces rayons arrivent-ils à la Terre ?
Je sais.
Plusieurs années-lumière ?
Oh, le soleil n'est pas si loin que ça.
8 minutes.
Quelques secondes.
Bravo,
8 minutes.
Patrick.
Ouh,
un point pour Patrick.
Trop fort.
Donc c'est environ 8 minutes.
Environ. Rapide.
Ouais. Grâce à mon troisième œil. Hein.
Bien sûr.
Bravo. Passons à un autre thème. Par rapport au soleil... Non, ça je l'ai déjà dit.
8 minutes, ouais, j'ai gagné.
Ouais. Tout ce bon là.
La distance entre la Terre et le soleil, d'après Google et sans les planètes, est de 149 597 870 km. Je okay. Bégaye beaucoup.
C'est un long chiffre. Hein.
Oui. C'est une question ou une réponse, là ?
Non, c'est une réponse.
C'est une réponse. Il n'y a pas de question, donc c'est une réponse.
Faut suivre.
Changeons encore de thème. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la gravité a poussé la Terre à se former à partir du disque gazeux et poussiéreux qui entourait le Soleil. Au fil du temps, le centre de la Terre s'est divisé en 4 couches. Au centre de la planète se trouve le noyau interne, une sphère solide de fer d'une température de 5426 degrés Celsius. Le noyau interne est entouré par le noyau externe, une ceinture de fer liquide. Au-delà du noyau externe se trouve le manteau, une couche de roche fondue sur laquelle repose la couche la plus externe de la Terre, la croûte. La Terre a un satellite naturel que tout le monde connaît, comme la Terre...
La Lune.
La Lune.
Bravo ! C'était pas une question.
Bah moi j'ai la réponse.
La Lune, mais ce sera pour la prochaine fois si je ne décide pas à la dernière minute de faire Mars.
Ah, on n'est pas à l'abri, hein. T'as raison.
Ouais, parce c'est que... bien les surprises.
À la base, j'avais prévu de faire Mars là, sauf que finalement j'ai fait la Terre. À la base, j'avais prévu de faire Mars la dernière fois, mais finalement j'ai fait le Soleil.
Donc peut-être que Mars verra le jour la prochaine fois dans tes chroniques,
oui.
Ou pas.
Très bonne idée.
Non, la prochaine fois.
Faut juste pas se tromper d'explication, quoi.
À part si j'ai la flemme.
Ah d'accord.
Mais bon, à la prochaine chronique.
À la prochaine.
À la prochaine chronique.
Je suis toujours là.
Merci Martin. Eh bien écoute, puisque on parle de la Terre, moi je trouve qu'elle est très belle et
tout à fait.
On la visite pas assez. Ou en tout cas, grâce à Miss Kilt, on va pouvoir aller dans un endroit bien précis, qui est l'Écosse, et un endroit qu'elle arrive quand même à nous faire vraiment bien aimer. Enfin, bon, j'étais déjà un petit peu conquise d'avance.
Super !
On y va !
Mais il pleut tout le temps en Écosse. Non, sauf quand il fait beau. Hello, chères auditrices et chers auditeurs.
Bonjour.
Qu'il pleuve ou qu'il vente, sillonner l'Écosse est toujours un moment plaisant. Mais pensez-vous que ce soit possible sans visiter un seul château ?
Bien sûr.
Oh non, moi les châteaux, j'adore. C'est mort.
Bon, ok, je vous comprends. Il y a tant de choses à faire. Mais vraiment, ce n'est pas conseillé du tout. Car ce serait passer à côté de merveilles architecturales et d'histoires familiales, véritables témoignages du passé mouvementé de ce pays. Toutefois, je le reconnais, ils sont vraiment très nombreux. Il faut donc trancher et choisir ceux que l'on souhaite visiter pendant notre séjour, en pensant que l'on reviendra une autre fois pour les autres. Car en effet, pendant des siècles, les batailles entre les clans où les guerres avec les Anglais ont forcé les Écossais à se protéger et à construire de nombreuses forteresses. De certaines, il ne reste que quelques ruines. Alors, l'imagination des visiteurs doit être fertile pour tenter de reconstituer la réalité des époques que ces pierres ont traversées. Donc, vous l'avez compris, les châteaux représentent une grande partie du patrimoine écossais. Et les visiter est un réel plaisir et aussi un bond dans le passé. Pour commencer, je vais vous parler du plus célèbre et médiatique, car fortement rattaché à ma chère reine Élisabeth II. Il s'agit du château de Balmoral.
Je connais pas.
Je connais pas non plus.
C'est vrai ? Eh bien, situé dans le comté d'Aberdeen, au cœur des Highlands, ce château était à l'origine un simple pavillon de chasse. Acheté par la reine Victoria et son époux le prince Albert, le domaine est agrandi et modernisé, puis devient à partir de 1848 une résidence royale importante. Ils aimaient beaucoup s'y ressourcer et la surnommaient leur cher paradis dans les Highlands. Ce lieu devient donc emblématique dans l'histoire de la famille royale britannique. Et en effet, c'est en ce lieu qu'en 1946, le prince Philippe demande la main d'Élisabeth et que l'année suivante, ils y passent une partie de leur lune de miel, loin des regards. C'est ici également qu'après la mort du prince Philippe, en 2021, Élisabeth II, alors âgée de 96 ans, y séjourne de plus en plus régulièrement. Et puis, un peu plus d'un an après, dans la soirée du 8 septembre 2022, le palais de Buckingham annonce officiellement le décès de la reine dans son château de Balmoral, où pendant 70 ans, elle a trouvé refuge quand le poids de la couronne devenait trop lourd à porter. Si vous souhaitez le visiter, sachez qu'il est ouvert chaque année du mois d'avril au mois d'août. Maintenant, dans un style un peu différent mais tout aussi célèbre, je vous présente le château d'Ailandunan. Considéré comme l'un des plus romantiques, il est aussi le plus photographié d'Écosse. Voici quelques bribes de son histoire. En 634 après Jésus-Christ, ce lieu est la propriété de l'évêque Donan, qui crée un monastère. Remanié à partir du XIIIe siècle, il tombe en ruine en 1719 après une violente bataille entre les Anglais et des dirigeants jacobites. Les jacobites, je le rappelle, étaient des Écossais appartenant à un mouvement politique, qui soutenait le roi Jacques II d'Écosse, exilé par les Anglais, d'où le nom jacobite venant de Jacobus ou Jacobus en latin, qui signifie Jacques.
On le voit bien dans la série Outlander. Exactement. Ils en parlent beaucoup des jacobites. Enfin, il y a toute une saison qui porte là-dessus.
Ils ont défendu l'Écosse, corps et âme. Pour revenir à notre château d'Ailandunan, presque 200 ans se sont écoulés lorsqu'entre 1912 et 1932, il est reconstruit avec une grande partie des ruines par le lieutenant-colonel écossais John McCrae. Grâce à ces restaurations, aujourd'hui, les visiteurs peuvent parcourir les fabuleuses salles intérieures en admirant des meubles d'époque, des objets jacobéens et des armes. L'intérêt historique et le patrimoine sont abondants et les enfants peuvent même explorer les anciens remparts et soulever des boulets de canon ou bien tenir un claymore qui est une grande épée des guerriers écossais maniée à deux mains. Culturel et ludique.
Je vois Martin qui a très envie d'y aller. Ah ouais.
Et il n'y aurait pas par hasard les Highlanders, les immortels, comme la série des années 90.
Il va y avoir des personnes qui se présentent en habit, tout à fait. Oui. Tout cela est très distrayant, mais avec peu, il est possible aussi de s'évader. En vous disant cela, je pense aux châteaux en ruine qui peuplent les publicités pour circuits touristiques et qui, eux aussi, attirent beaucoup de visiteurs. Il est vrai qu'ils possèdent un esthétisme exaltant et attractif. Souvent nichés dans des lieux isolés, entourés de paysages naturels, de lacs sombres et de nuages menaçants, ils ont la particularité d'être remarquablement photogéniques. Pour tout vous dire, ce sont mes préférés. Et je pense que toutes les personnes ayant une attirance pour les aventures chevaleresques doivent savourer ces visites où tant de batailles héroïques ont eu lieu. Alors, voici selon moi deux châteaux à ne pas manquer. Je commencerai par le plus connu, Hawkward Castle. Cette forteresse en ruine fut stratégiquement située sur les berges du Loch Ness. On peut y entrer, monter des marches en pierre et d'une ouverture plonger son regard dans l'obscurité du lac, s'émerveiller de la beauté sauvage des paysages alentour, et puis peut-être y apercevoir
le Loch Ness.
S'il est de sortie. Le Loch Ness, tout à fait.
Le monstre du Loch Ness.
Le monstre du Loch Ness.
Exactement.
Nessie. J'ai beaucoup apprécié également la forteresse de Slains, située dans Cruden Bay, au nord-est de l'Écosse. Durant ses heures de gloire, ce majestueux édifice, construit au XVIe siècle, devait être impressionnant. Ses ruines actuelles le sont tout autant. Situé au sommet d'une falaise, il surplombe la mer du Nord, souvent déchaînée et vivifiante, et ce site balayé par les vents marins est d'une rare beauté naturelle et vous emmène dans un rêve qui vous fait oublier la notion du temps. On peut l'apercevoir dans la série The Crown, dans laquelle il remplace le château privé de May, qui n'a pu être utilisé pour le tournage. Je n'ai pas encore évoqué les châteaux hantés. Étant brave, mais pas téméraire, j'avoue que ceux-là ne sont pas mes préférés. Je ne les ai donc pas visités. Mm-hmm. Je vous laisse le faire et puis vous me raconterez, mais brièvement, vos expériences avec leurs fantômes respectifs. Je vous donne quand même quelques adresses. en sachant que je n'ai fait qu'une petite sélection, car il y en a beaucoup. Le château de Tantallon, le palais de Falkland, le château de l'Ermitage, le château... J'attendais l'écho du fantôme.
Ouais.
Le château de Blackness.
Ah bon ?
Ça ne s'invente pas.
Ah, ça fait flipper ça, hein, celui-là.
Et le château Tour Aloha, maison tour au mur très épais. Moi, pendant ce temps, je me contenterai de revoir l'épisode de Fantomas en Écosse, car je sais que c'est du cinéma. Alors, bonne journée et à bientôt, chères auditrices et chers auditeurs de la matinale.
Infernale.
Merci beaucoup, Miss Kill, pour cette virée inspirante et vivifiante au bord des falaises écumeuses de l'Écosse et de ces châteaux qui font, pour ma part, déborder mon imaginaire. Eh bien, je vous propose une petite pause musicale. On va d'ailleurs rester avec un groupe écossais bien connu. Il s'agit de Texas. Et voilà, cette histoire de sortir de l'écume, on va passer un petit brin de soleil. Ça me paraît de saison même. D'ailleurs, il s'agira de Summer Sun. Et voilà,
super, j'adore.
My skin.
Et nous voilà de retour dans la matinale
infernale.
Et oui, nous sommes dans la matinale infernale sur Graphite avec les chroniqueurs de l'atelier des bibliothèques de Compiègne. Et puisque nous sommes en forme ce matin, je propose qu'on reste dans cette dynamique et que Jules enchaîne avec sa chronique sur les Jeux Olympiques.
Merci Aurore. Bonjour à toutes et à tous. Ma troisième chronique porte, encore une fois, sur les Jeux Olympiques. Le jour où nous tournons cette chronique, nous sommes à J-100 des Jeux Olympiques. Cette fois-ci, cette chronique porte sur les médailles, les chances de médailles françaises pour les JO de Paris.
Ah, des pronostics.
Ouais. Je vais pas toutes les faire, mais que les principales. Connaissez-vous quelques stars françaises qui vont participer aux Jeux Olympiques de 2024?
Pas tous en même temps.
Non.
Hein. Pas trop.
Laure Manaudou.
Non. Ça fait longtemps qu'elle
n'est plus. Bon, bah, a priori, il va falloir que tu nous mettes à jour, Jules.
Par exemple, comme légende du sport français, il y aura Florent Manaudou. Pas Laure, Florent. Le judoka Teddy Riner. Et le handballeur Nicolas Karabatic. Et plein d'autres encore.
Ouais.
Savez-vous quel sport fait l'athlète Léon Marchand?
Non plus.
Natation?
Ah, natation, oui. On a eu natation dans le fond. Oui, bravo.
Il fait de la natation.
Ouais,
il a 22 ans et c'est la pépite de la natation mondiale. Il a battu plusieurs records du monde ces dernières années, par exemple celui du 400 mètres 4 nages et bien d'autres encore. Autre nageur participant aux Jeux Olympiques, la légende Florent Manaudou, qui aimerait bien être porte-drapeau à la cérémonie d'ouverture. Il a gagné une médaille d'or et 3 médailles d'argent aux JO. Pour vous dire, à tous les championnats de France auxquels il a participé, Il a remporté 32 médailles d'or. C'est pas mal du tout.
En effet.
En athlétisme, notre plus grande chance de médaille française est Kevin Mayer. Le décathlonien de 32 ans n'est pas encore qualifié et devra passer par un TQO, tournoi de qualification olympique.
Est-ce que tu penses qu'au moment où les auditeurs vont écouter, il aura déjà passé? Dans quelques semaines, du coup? Parce que là, on est à J-100.
Je pense que peut-être, ouais.
Ok, donc vous aurez peut-être déjà la réponse à ce moment-là. Au moment où vous nous écoutez, vous avez peut-être la réponse.
Médaillé d'argent en 2021 et en 2016 aux JO, on compte sur lui pour apporter une médaille. Du côté des sports collectifs, on peut compter sur Nicolas Karabatic et ses coéquipiers pour enflammer Paris et Villeneuve-d'Ascq où auront lieu les compétitions. Le plus grand joueur de l'histoire du handball jouera sa dernière compétition aux Jeux Olympiques et il essaiera de bien finir. On lui souhaite bonne chance. Au basket, la superstar Victor Wembanyama essaiera de battre les irréductibles États-Unis avec leur panel de stars de la NBA.
Ah ouais, lui, j'en ai entendu parler. Je n'aurais pas su redire son nom, mais je sais qui c'est.
Oui. Les Français auront une superbe équipe en espérant de recréer l'exploit comme en 2021 où ils avaient battu les Américains en phase de groupe. Malheureusement, les Américains avaient pris leur revanche en phase finale. Côté football, les clubs ne veulent pas tous laisser partir leurs joueurs car c'est pendant la saison. Ça commence avant. Par exemple, Kylian Mbappé ne pourra probablement pas participer car le Real Madrid, son futur nouveau club, a annoncé qu'il ne libérera pas ses joueurs pendant les JO. Espérons que les clubs les laissent quand même participer à une expérience unique. Côté féminin, les femmes font partie des grandes favorites avec un tableau très relevé. La doyenne du lancer de disque de 44 ans, Mélina Robert-Michon, fera ses derniers Jeux Olympiques.
Mmh.
Et pour faire les Jeux Olympiques à 44 ans, il faut quand même être très...
Très fort.
Très balèze.
On lui souhaite bonne chance aussi.
Ouais. Donc voilà, ma chronique, elle se termine comme ça.
Les femmes, il n'y a qu'un exemple. À bientôt, une femme et basta. Ah bah bravo. Si Fatih était là. Hein. Non mais merci beaucoup Jules, ça nous a aussi remis dans le bain parce que moi il y a plein de noms que je connaissais pas parce qu'à part le basketteur Victor, je sais plus.
Wembanyama.
Merci. Voilà les autres noms, j'étais un peu loin de ça et puis ça pourra permettre à nos auditeurs qui sont pas forcément super fans mais qui ne pourront pas échapper au JO de se mettre aussi dans le bain. Eh bien je propose que on puisse plomber le week-end. On était tellement bien partis. Alors, Bad Cave, tu vas nous parler de Post-Punk Forever?
Bah oui, bien sûr. Salut les amis, moi c'est Bad Cave. Laissez-moi un peu plomber l'ambiance avec ma chronique post-punk. Vous prendrez bien une petite cure de spleen. Je vous promets, c'est excellent pour la santé. Rappelez-vous, dans ma première chronique, j'évoquais un sketch musical du groupe de hip-hop IAM intitulé « Achevez-moi ». Il s'agissait d'une parodie de morceaux Cold Wave. Dans les lyrics, on pouvait entendre ces mots « Je rêve de vacances en Pologne dans des usines cold ». Le rappeur Akhenaton reprenait un cliché des années 80, représentant les pays d'Europe de l'Est comme des contrées post-industrielles déprimantes. Sous la plume du sarcastique rappeur, ils étaient donc un paradis pour les amateurs de post-punk. D'une certaine façon, ils n'avaient pas tort. Je me prendrai comme exemple. En effet, d'après vous, où ai-je passé mes dernières vacances ?
En Pologne ?
Mais pas loin, mais non, mais oui, en Europe de l'Est. J'ai voyagé en terre slave, en Slovaquie, où j'ai pu entre autres me délecter de la grisaille de grands ensembles post-soviétiques. À l'époque, ou plutôt à l'occasion de ce voyage, j'ai cherché sur les plateformes de streaming des groupes post-punk issus des pays de l'Est. Je me demandais si ces latitudes-là produisaient vraiment des humeurs atrabilaires et le rock qui va avec. Pensez-vous que le post-punk a essaimé dans les pays de l'Est ?
Oui, je pense.
Un peu.
Mais oui, exactement. Il est aujourd'hui en pleine effervescence. De ces écoutes dont je vous parlerai plus longuement dans une prochaine chronique, mon coup de cœur est allé au groupe polonais Past, dont j'aimerais partager avec vous ce matin un de leurs morceaux intitulé « Tetcha ». Laissez-moi vous présenter le groupe. Sur les réseaux sociaux, nous apprenons qu'il fait partie de la scène indépendante de Varsovie depuis 2011, mais semble inactif depuis 2020. J'aurais laissé un petit message pour en savoir davantage sur leur parcours, mais sans succès. Sur leur page Facebook, le groupe au look très roots pose devant un combi Volkswagen qui rappelle les temps des hippies. J'en conclus que ces membres se sont évanouis dans la nature, peut-être s'affairent-ils dans une ZAD quelconque. Leur présentation dit ceci. Dans leurs paroles, ils déplorent le monde dans lequel ils vivent et affirment jouer de la musique afin de pouvoir s'affranchir des normes et de la médiocrité. Pas de doute, il s'agit bien d'un groupe post-punk. Il se compose d'un guitariste, d'un bassiste, d'un batteur et d'une chanteuse également claviériste. C'est cette voix passionnée, à la fois triste et déchaînée, qui a d'abord attiré mon attention. J'ai choisi leur morceau « Tetcha » car il nous permet d'identifier assez clairement le genre musical qui nous occupe. Voici ma petite analyse musicale. Il s'agit d'un morceau simple, structuré autour de deux parties assez similaires entre elles. Une première suite d'accords tourne sur l'introduction, le couplet et le pré-refrain, avant qu'une seconde suite, plus rageuse, ne produise une cassure, un pont assez bref, qui fait en quelque sorte office de refrain. Le premier thème revient ensuite pour démarrer à nouveau une deuxième boucle. La première suite est pourtant jouée différemment dans chaque partie. Dans l'intro, un synthétiseur suit la passe d'accord en ne jouant que la note dominante. Cela produit un riff, une accroche simple, ici volontairement monotone. Lorsque la voix entre dans le morceau, le riff laisse place à un arpège de guitare plutôt doux. Puis, avec le pré-refrain, le guitariste joue le thème en power chord, c'est-à-dire sur trois cordes seulement, ce qui densifie le son et prépare la cassure du pont. Concentrons-nous maintenant un petit instant sur la texture sonore du morceau. Parmi les effets permettant de donner une couleur au son des instruments rock, il y a par exemple la saturation, la delay qui produit de l'écho, il y a la réverbération qui donne de la profondeur spatiale, mais l'effet favori des musiciens post-punk est probablement le chorus, que l'on retrouve abondamment dans notre morceau du jour. Cet effet, assigné à un instrument, consiste à appliquer à la note jouée un écho unique très rapproché qui n'est pas perceptible à l'oreille. Ce que l'oreille perçoit en revanche, c'est un tremblement, un vibrato qui donne au son quelque chose de vaporeux. On parle aussi d'effet mouillé, comme si l'on avait mis l'ampli de guitare sous l'eau et capté ce qui en sortait. Évidemment, j'évoque ici une image et mettre un ampli de guitare dans une piscine ou dans une baignoire est une très très mauvaise idée. Mais voici un petit exemple de guitare jouée avec un effet chorus. Deuxième élément caractéristique, le rythme twist de la batterie. Il consiste à jouer le contretemps en double croche, ce qui donne à ce rythme quelque chose de chaloupé, de dansant. Voici une brève illustration. Dans les années 70, les punks réhabilitent le rockabilly et les rythmiques inventées par les pionniers du genre comme Johnny Cash ou Elvis Presley. Les post-punk, eux aussi, reprendront ce rythme twist pour en faire une marque de fabrique. Pour terminer, j'aimerais souligner le contenu des paroles de Tetia. J'ai passé les lyrics dans un traducteur en ligne afin de me faire une petite idée du message. Le titre signifie donc « arc-en-ciel » et le couplet dit ce, entre autres ceci « Pour les animaux et les arbres, pour les femmes et le club arc-en-ciel, je combattrai le poing serré ». Tous les lyrics forment un hymne à la liberté, à la nature et au progrès social. On peut aussi comprendre ces paroles comme un soutien aux droits des femmes et des groupes LGBT. Pour conclure et aller un peu à rebours des clichés, je dirais qu'on peut être polonais, jouer du post-punk et ne pas être totalement pessimiste. Je vous laisse donc avec Tetia, chanson post-punk mélancolique, obscure mais aussi combative.
Merci Bad Cave, on va écouter ça juste à la fin pour conclure l'émission. Je suis pas sûre qu'on puisse tous aller en Pologne ou dans les pays de l'Est ce week-end, genre là maintenant tout de suite. Mais écoute, ça, si ça vaut le coup d'y faire un tour, eh bien pourquoi pas. En plus souvent les billets d'avion sont pas très chers, donc c'est le moment d'en profiter. Avant de se quitter, j'en profite quand même pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours réécouter les podcasts de notre émission sur le site de Radio Graphite, donc graphite.net, ou bien même sur mon propre site dans la partie blog aygbleu-créatrice-d'univers.fr. Je vais souhaiter à nos auditeurs un très bon week-end. Merci à mon équipe matinale pour leur chronique. Comme d'habitude, on va se quitter en musique avec donc le groupe Passe que tu viens de nous présenter et le titre
Tetia.
Merci pour la prononciation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de la matinale
Infernale.